de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, cher Jolitar, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Le président de l'AIPA espère que le 44e accord AIPA se poursuivra lors de la 45e AIPA au Laos. Ministre de l'ATR déclare que la facilité de localisation des permis attire les investisseurs en Indonésie. Compétition du championnat intervillage de 5 branches sportives de Kemenpora. Kemenkop UKM présente la transformation des MPME lors de la journée nationale des MPME. 6 citoyens indonésiens victimes d'escroqueries en ligne TIP rapatriés de Chiang Rai, Thaïlande. Équipe féminine indonésienne de volleyball affrontera le Vietnam dans la C5 League 2023. L'Indonésie vise à devenir le centre mondial des problèmes d'eau et de catastrophes lors du WWF 2024. Monsieur Jaitar, voici les nouvelles en complet. Le président de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie ainsi que la présidente de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie ainsi que le président de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, AIPA 2023, Puan Maharani, espère que les accords qui ont été produits lors de la 44e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN AIPA. La session générale peut se poursuivre lors de la 4e Assemblée générale de l'AIPA 45. Point lors de la conférence de presse après la clôture de la 44e Assemblée générale de l'AIPA au Fairmont Hotel Jakarta mercredi 9 août. A également espéré que l'AIPA serait en mesure de devenir un pont qui unit les diverses différences des pays membres de l'AIPA. Auparavant, Puan Maharani avait transféré la direction de l'AIPA de l'Indonésie au Laos. Symboliquement, Puan a remis le marteau de la session de l'AIPA au président de l'Assemblée nationale du Laos, Sai Sompon Pom Vifan. En signe de relais de la présidence de l'AIPA, la 45e Assemblée générale de l'AIPA se tiendra en octobre 2024 au Laos, après la présidence nationale de l'AIPA l'année prochaine. À cette occasion, Puan Maharani a également apprécié L'engagement de toutes les délégations a donné la priorité à l'esprit d'unité de l'ASEAN en répondant à toutes les différences qui surgissent. Lors de chaque discussion lors de la 44e Assemblée générale de l'AIPA, le ministre des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire, chef de l'Agence foncière nationale indonésienne, Hadi Cahyanto, a révélé que la facilité des permis de localisation ou la dédication des activités d'utilisation de l'espace, KKPR, peut inciter les investisseurs à venir investir en Indonésie. Hadi, dans sa déclaration à Jakarta jeudi 10 août, a déclaré que le président Joko Widodo a déclaré à chaque occasion que le gouvernement devait offrir un tapis rouge aux investisseurs sous la forme d'une facilité d'investissement en facilitant les réglementations. Selon lui, l'adéquation des activités d'utilisation de l'espace peut être émise s'il existe un plan spatial détaillé. L'Indonésie a un objectif de 2000 plans spatiaux détaillés dans toute l'Indonésie et ceux qui ont été connectés au système de soumission unique en ligne ou par voie électronique. Licences commerciales intégrées, il y a 183 plans spatiaux détaillés. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, Kemenpora, de la République d'Indonésie organise les championnats intervillages du ministère de la Jeunesse et des Sports en 2023. Cette activité concourra dans 5 sports et se tiendra dans 32 districts villes d'Indonésie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, a déclaré mercredi que le championnat était un programme supérieur et une priorité pour le ministère de la Jeunesse et des Sports pour cultiver le sport dans la société, comme le stipule le grand dessein pour les sports nationaux. Selon le ministre Dito, cité sur le site officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports, jeudi 10 août, l'événement est conformé à l'un des messages du président Joko Widodo, à savoir que le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le sport, peut toucher la couche inférieure, les villages ou les villages, ainsi qu'un moyen de recherche de talents sportifs nationaux. Dans cette édition inaugurale, le ministère de la Jeunesse et des Sports s'essaie à 5 sports considérés comme populaires auprès du public et ayant le potentiel de faire des exploits mondiaux, à savoir le basketball, le badminton, la course à pied, le tennis de table et le volleyball. Le coût d'envoi du match du championnat intervillage du ministère de la Jeunesse et des Sports 2023 aura lieu le 19 août à Tangerang. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, UKM, et le gouvernement de la ville de Surakarta présenteront la transformation des futures micro, petites et moyennes entreprises, MPME, afin de célébrer la Journée nationale de l'UMKM 2023. Le ministère des coopératives et des PME, Teten Mas Duki, à Jakarta, mercredi 9 août, a déclaré que son parti devait préparer les MPME à entrer dans l'aval national afin qu'elles puissent améliorer la qualité de l'emploi, dont 97% étaient fournis par les MPME. Teten Mas Duki a déclaré que la future transformation des MPME sera également marquée par l'entrée des MPME sur les plateformes numériques. Cela a été conforme à l'objectif du gouvernement d'encourager l'intégration de 30 millions de MPME. Il a ajouté que la célébration de la Journée nationale des MPME de cette année est un élan pour les acteurs des MPME en Indonésie pour montrer leur don à travers le futur écosystème des MPME. À la fois par la numérisation, la collaboration des résultats de la recherche et l'innovation pour entrer en aval. Le point culminant de la célébration de la Journée nationale de l'UMKM aura lieu ce 12 août à Pamedan Mangkunegaran dans le centre de Java en présence du président Joko Widodo. Six citoyens indonésiens qui ont été victimes du crime de traite des personnes, TPPO, dans la province de Chiang Rai, en Thaïlande, ont été renvoyés en Indonésie mercredi 9 août. L'ambassade de la République d'Indonésie à Bangkok a facilité ce rapatriement. Les six citoyens indonésiens avaient déjà été arrêtés en mai 2022 pour entrée illégale, propagation de la maladie COVID et violation des protocoles de santé à Chiang Rai. Ils ont été transférés par des syndicats de trafiquants d'êtres humains vers divers endroits à la frontière de la Birmanie et de la Thaïlande. Cela a entraîné leur absence du procès. Le tribunal de Chiang Rai a finalement émis un mandat d'arrêt. Ces six citoyens indonésiens ont ensuite été reconnus comme victimes de l'acte criminel de traite des personnes par les autorités thaïlandaises compétentes après avoir été libérés à Maesut. Cependant, ils ne peuvent pas être immédiatement renvoyés en Indonésie, car le mandat d'arrêt du tribunal est toujours en vigueur. Ils peuvent être renvoyés chez eux après que le tribunal a révoqué l'ordre d'arrestation le 25 juillet 2023. Le ministère des Affaires étrangères et l'agence d'enquête criminelle de la police nationale indonésienne travaillent ensemble pour fournir une protection juridique et une enquête plus approfondie conformément à la loi applicable. L'équipe nationale féminine indonésienne de volleyball affrontera celle de Vietnam au deuxième tour du match d'ouverture de la C5 League 2023, vendredi, qui se déroulera à Chiang Mai en Thaïlande. L'équipe indonésienne, classée troisième au premier tour, a l'ambition d'améliorer leur performance au second tour, qui se déroulera du 11 au 13 août. Après avoir affronté le Vietnam, l'équipe de l'entraîneur Eko Aluyo affrontera les champions du premier tour et accueillera la Thaïlande samedi. Puis le match de clôture, Wilda City Fadila et l'équipe rencontreront les Philippines dimanche. La composition des joueuses, l'équipe nationale indonésienne n'a apporté aucun changement tout en s'appuyant toujours sur les mêmes joueuses au premier tour. L'Indonésie vise à devenir le centre mondial des questions d'eau et de catastrophes grâce au 10e Forum mondial de l'eau WWF auquel ont participé des délégués de 172 pays à Nusa Dua, Badung, Bali, du 18 au 24 mai 2024. Cela a été transmis par l'expert personnel du ministère des Travaux publics et du Logement public, PUPR, secteur économique et d'investissement d'Adang Rukmana, lors d'un point de presse lié à la mise en œuvre du 10e WWF à Nusa Dua, Badung, Bali, mercredi. Les acteurs qui soutiennent le centre du monde se trouvent en Indonésie. Il a poursuivi parce que l'Indonésie a l'expérience des problèmes d'eau liés aux catastrophes, notamment les tsunamis, les inondations et les sécheresses. Le problème de l'eau et la catastrophe, il a dit, ont été causés par un certain nombre de choses allant des activités humaines, des zones de captage d'eau perturbées au changement climatique. L'Indonésie, il a dit, a été choisi comme hôte du 10e WWF en battant un autre candidat, à savoir l'Italie, lors de la 9e réunion du WWF à Dakar, au Sénégal, qui devrait se tenir au Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC en 2024. La rencontre mondiale qui se tient tous les trois ans a pour mission d'offrir un forum de discussion et de partage d'expériences, d'actions innovantes et créatives pour répondre aux problèmes liés à l'eau et créer des idées concrètes dans la gestion durable des ressources en eau. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le Quai du Pontic ayant pour le titre Promouvoir l'Indonésie en Australie occidentale. Le consulat général d'Indonésie à Perth organise une exposition culturelle au musée Mandura. Le consulat général de la République d'Indonésie à Perth a organisé une exposition culturelle au musée Mandura à Mandura, en Australie, pour promouvoir l'Indonésie. L'inauguration de l'exposition qui s'est tenue samedi 5 août a réuni le ministre des Arts et de la Culture, de l'Éducation internationale et des Sports d'Australie-Occidentale, David Templeman, et la junte au maire de Mandura, Caroline Nike. La consul générale de la République d'Indonésie à Perth, Listiana Operananta, a souligné l'importance de renforcer la compréhension par le biais d'activités proches du public. Selon elle, l'Australie et l'Indonésie sont des voisins proches et il est naturel que les peuples des deux pays entretiennent des relations étroites. L'ouverture de l'exposition a été animée par diverses danses d'Indonésie telles que la danse Emprak de l'Est de Java, la danse Dumaks Betawi de Jakarta et les danses Cendrawasih et Selat Segara de Bali. Le public a été présenté avec une performance d'ensemble Angklung par l'Association Dharma Wanita ou DWP du consulat général d'Indonésie à Perth et la voix d'or de Ruth Dian Lestari qui a chanté Tatinggal en Papouasie et en Patrie. L'ouverture de l'exposition a également été remplie d'ateliers d'angklung et de danse pour les visiteurs qui y ont assisté. Cette exposition culturelle dure jusqu'au 3 septembre 2023 et vise à présenter la richesse de l'art et de la culture indonésienne ainsi qu'à promouvoir les relations entre le peuple indonésien et le peuple d'Australie occidentale en ville de Mandura. Cette exposition présente de beaux vêtements indonésiens, de beaux tissus batik, de tubans ainsi qu'une variété de vêtements traditionnels de l'archipel. L'exposition présente également le batik très spécial Potehan Kambarang, né d'une collaboration artistique entre l'artiste aborigène d'Australie occidentale Cassandra Cartledge et le créateur de mode indonésien Imran Nawawi. C'est Rita, c'était la Quai diplomatique pour ce soir. La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et les dossiers au courriel voequiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Bonsoir à tous. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 10 août, Journée nationale des anciens combattants. La Journée nationale des anciens combattants est célébrée chaque 10 août. C'est pour se souvenir des services des anciens combattants qui ont combattu pour s'emparer et défendre la souveraineté de l'Indonésie. Cette journée rappelle également que l'indépendance de l'Indonésie a été gagnée et combattue par les enfants de la nation. La Journée nationale des anciens combattants a été instituée par le président Susilo Bambang Yudhoyono en 2014. Passons maintenant à l'événement du 10 août 1973, inauguration du temple de Borobudur après la deuxième restauration. Le temple de Borobudur est un temple bouddhiste situé à Magelang dans le centre de Java. Le temple de Borobudur a subi plusieurs restaurations. La première fois, il a été restauré de 1907. Puis, le 10 août 1973, le président Suharto a inauguré le temple de Borobudur après la deuxième restauration. Le plus grand projet de restauration a eu lieu de 1975 à 1982 sous les efforts du gouvernement de la République d'Indonésie et de l'UNESCO. La participation de l'UNESCO à la restauration du temple est l'un des efforts visant à présenter le temple de Borobudur au monde international. Après la rénovation, l'UNESCO a inclus le temple Borobudur dans la liste des sites du patrimoine mondial en 1991. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 août, la commémoration de la Journée nationale de l'éveil de la technologie. La Journée nationale de l'éveil technologique est commémorée tous les 10 août. Cette date a été choisie car il s'agissait du premier jour de vol de l'avion N250 Gatot Kaca à Bandung, le 10 août 1995. L'avion N250 Gatot Kaca est considéré comme une étape importante dans l'histoire de l'essor de la technologie nationale. Le but de cette commémoration est de se rendre hommage au succès des enfants du pays dans l'utilisation, la maîtrise et le développement de la science et de la technologie IPTEC. En outre, la Journée nationale de l'éveil à la technologie vise également à encourager les jeunes à continuer de générer de l'innovation et de la créativité pour le bien de la nation indonésienne. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Tak pernah kau ingkari. andai saja kita tak bertemu, takkan ada rasa cintaku padamu. Bila saja rasa cinta itu dapat kembali lagi seperti dulu. Kini semua kau ulangi saat aku kembali, kita bersama
Chajoïtar, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chajoïtar, bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement prépare des réglementations et des incitations pour réduire les déchets textiles. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Environnement et des Forêts, a rédigé la deuxième phase du règlement du ministère de l'Environnement et des Forêts, numéro 75 de 2019, qui réglemente la responsabilité des producteurs pour leurs produits à partir de la planification, de la réduction des déchets, de la mise en œuvre, de l'évaluation et des rapports. Le règlement réglementera spécifiquement la responsabilité des fabricants de réduire les déchets textiles. Les producteurs du secteur textile à partir des grands acteurs OMPME sont invités à élaborer une feuille de route pour la gestion de la réduction des déchets, comme le font les producteurs du secteur alimentaire et de boissons, des produits en plastique et en métal. La directrice de la réduction des déchets au ministère de l'Environnement et des Forêts, Winda Damayanti Anshar, a déclaré à Jakarta mardi 8 août qu'actuellement, 120 producteurs ont soumis des concepts pour réduire les déchets de leur processus de production. Selon elle, la même chose s'appliquera également au secteur textile. Vinda Damayanti a déclaré que le gouvernement prévoyait également d'offrir des récompenses sous la forme d'incitations supplémentaires, sous forme de capital commercial, pour encourager les acteurs commerciaux à mettre en œuvre la réduction des déchets et à en faire rapport via une feuille de route. Les déchets textiles qui s'accumulent dans les décharges au TPA, les mers, les rivières où sont brûlés, ont un impact négatif sur l'environnement, eux-mêmes également le cœur de la créatrice Chitra Subiakto. Grâce à l'activité de mode lancée depuis septembre 2021, Chitra a transformé des déchets textiles ou des vêtements en propre à l'usage en produits de mode dont la valeur de vente peut atteindre des millions de roupias. De septembre 2001 à mai 2023, sa partie a collaboré 5 719 kg de vêtements usagés recyclés. Divers produits ont été créés allant des vêtements, des sacs, des fibres isolants, des absorbeurs de son, des fils, des tissus et des accessoires. Ces produits de mode sont utilisés par le public, les artistes et ont même ciblé une clientèle internationale comme la Malaisie et Singapour. Chitra invite la communauté à contribuer conjointement à réduire la quantité de déchets textiles à travers trois étapes en tant que consommateur intelligent pour préserver l'environnement et sauver la génération future. La première étape consiste à acheter des vêtements qui peuvent être utilisés pendant longtemps, qui ne perdent pas leur tendance, éviter les matériaux en polyester car ils ne se décomposent pas facilement. Deuxièmement, il n'y a pas de honte à porter des vêtements à plusieurs reprises, ce qui est accompagné par des personnalités publiques. Enfin, ne jetez pas immédiatement les vêtements abîmés, mais réparez-les. L'Observatoire environnemental de l'Institut agricole de Bogor, IPB, Supriyatine, a déclaré que les déchets textiles sont un problème que le gouvernement indonésien doit résoudre immédiatement, car de plus en plus de gens jettent des vêtements jugés inappropriés. Supriyatine a déclaré qu'il était temps pour le gouvernement d'agir plus massivement et d'accroître la socialisation concernant la gestion des déchets textiles comme les déchets plastiques, organiques et métalliques. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Bring it down.
bina bersama. Walau telah terpisah, namun ku masih sayang.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, bonsoir, voici le magazine culturel. Cette fois, nous vous invitons à connaître le village de tourisme religieux d'Astana à Cirebon, dans l'ouest de Java. Ce village est un village touristique complet. Il y a des visites de la nature, des visites culinaires, des visites de shopping, des visites d'histoire culturelle et des visites de pèlerinage. Le principal potentiel de ce village est le district de Gunung Jati et le tourisme de l'histoire culturelle et le tourisme de pèlerinage. Dans ce village, il y a les sites de la tombe de Sunan Gunung Jati et de la zone de Sheikh Zatul Kaf. Sunan Gunung Jati lui-même est l'un des 900 Wali Songo qui ont répandu l'islam à Java. Chaque jour, la tombe de Sunan Gunung Jati est visitée par des personnes de différentes régions pour le pèlerinage et la prière. Pour visiter le village de tourisme religieux d'Astana, vous pouvez voyager pendant 2,5 km depuis la gare de Gambir au centre de Jakarta jusqu'à la gare de Cirebon et continuer en voiture pendant seulement 10 minutes. Pendant le voyage vers la zone de la tombe, vous pouvez acheter divers bibelots et des plats typiques de Cirebon vendus par les commerçants autour de la zone de la tombe. Pour soutenir les activités touristiques dans le village d'Astana, il existe un certain nombre de chez l'habitant qui peuvent être loués par les pèlerins. Les prix de location d'une maison est relativement abordable, seulement 150 000 de roupia à 500 000 de roupia. Chers auditeurs, à certains moments, un certain nombre d'activités culturelles sont organisées dans le village de tourisme religieux d'Astana, notamment les cérémonies traditionnelles Grebek Sawal, Panjang Jimat, Nadran et Mapak Sri. Grebek Sawal est généralement interprété par la famille royale à Cirebon. Cité de la plage Jadista, dans cette tradition, la famille royale visite les tombes ancestrales du complexe funéraire Sunan Gunung Jati. Panjang Jimat pour commémorer l'anniversaire du prophète, Nadran est une cérémonie traditionnelle de pêche qui se déroule sur la côte nord de l'île de Java, comme Subang, Indramayu et Cirebon. Tandis que Mapak Sri est l'une des coutumes et culture du peuple indonésien, en particulier Javanais et Sundanais, qui est pratiqué pour accueillir la récolte comme une forme de gratitude envers Dieu Tout-Puissant. En outre, dans le village, il existe également plusieurs types de spécialités culinaires pour gâter la langue des visiteurs. À partir d'empal gentong, de docang, de rilengko, croûte de riz, de chip de melinjo, de chip d'amba et de krakelang lambak. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Terlintas menemukanmu hangatkan dinginnya duniaku di setiap hari terasa indah melebihi semua mimpi dan anganku.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Wonderful Indonesia participe de nouveau au marché américain à travers Expo Indonesia en Mexico 2023. Wonderful Indonesia en tant que marque nationale du gouvernement indonésien pour améliorer l'image du tourisme du pays dans le monde international participe à nouveau sur le marché américain à travers Expo Indonesia en Mexico 2023. Expo Indonesia en Mexico 2023 est un événement commémorant le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Mexique qui s'étendra au Centro de Convenciones au Mexique du 3 au 6 août 2023 sur le thème reconnecter et présenter la merveilleuse Indonésie dans le marché américain. Expo Indonésia en Mexico 2023 a présenté pour la première fois l'exposition sur le commerce, le tourisme et l'investissement ou TTI dans le cadre de la collaboration entre l'ambassade d'Indonésie à Mexico, le Centre indonésien de promotion du commerce à Mexico, le ministère indonésien du commerce, ministère du tourisme et de l'économie créative ainsi que ministère de l'investissement. L'exposition cible 10 000 visiteurs qui sont divisés en expositions TTI telles que le forum de commerce, le forum de l'investissement et le forum des affaires touristiques auxquels participent des représentants du sous-secrétaire du tourisme mexicain et du sous-secrétaire du tourisme du ministère du développement économique de Colima ainsi que le secrétaire du tourisme de Tamaulipas. Sur la base des données du Bureau central des statistiques au cours de la période de janvier jusqu'à juin 2023, les touristes dans les Amériques ont enregistré 267 147 visites, soit une augmentation de 403,55% au cours de la même période l'année précédente. Le Mexique, l'un des plus grands marchés de la région des Amériques, a atteint 5 734 visites, soit l'augmentation de 601,84%. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Uno, a déclaré que cette évolution était un bon signe pour la relance de l'industrie touristique indonésienne, notamment après la levée du statut de pandémie de COVID-19 par l'OMS. Le climat pour l'industrie du tourisme qui a commencé à être propice est saisi comme une opportunité par le ministère du Tourisme et de l'Économie créative pour travailler le principal marché des touristes étrangers des Amériques à travers une série d'activités promotionnelles tout au long de l'année et cette fois au Mexique. On espère que cette activité pourra soutenir l'atteinte de l'objectif de 8,5 millions de touristes étrangers en 2023 et créer 4,4 millions d'emplois en 2024. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative participe et soutient Expo Indonésia en Mexico 2023 en facilitant la présence de représentants de l'industrie touristique tels que hébergement, agents de voyage et voyagistes qui se concentrent sur le marché du continent américain, l'activité promotionnelle pour les destinations touristiques indonésiennes, notamment 5 destinations touristiques super prioritaires, à savoir le lac Toba dans le nord de Sumatra, Borobudur dans le centre de Java, Mandalika dans l'ouest de Nusa Tenggara, Labuan Bajo dans l'est de Nusa Tenggara et Likupang dans le nord de Sulawesi. Ensuite, la vente de voyages organisés indonésiens et jumelages d'entreprises. Rencontre avec des agents de voyage mexicains, remplissage d'enquêtes auprès des visiteurs, services d'information et distribution de matériel promotionnel touristique indonésien, ainsi que des jeux interactifs en ligne et hors ligne. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a également soutenu la performance de l'équipe artistique amenée par l'équipe de la diaspora en Amérique lors de l'événement. L'adjoint au marketing du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Madame Nima de Ayu Martini, a déclaré que la participation active de Wonderful Indonesia à la série d'activités Expo Indonesia en Mexico 2023 était une étape stratégique pour rétablir la position de la marque Wonderful Indonesia en Amérique pour qu'il reste une priorité. Selon lui, les touristes étrangers du Mexique aiment beaucoup le tourisme de nature et d'aventure, comme voir des orang-outans à Kalimantan, des montagnes et des cratères volcaniques à Java et à Bali, tant au sud qu'au nord. Ils incluent également des touristes de répétition ou des visites de retour et des aventures dans les îles de Sumatra, Sulawesi, Lombok et Nusa Tenggara Est. Nimada Ayu a déclaré que la présence de l'Indonésie dans cette région était très importante pour cibler le potentiel des touristes étrangers avec un tourisme de qualité pour le tourisme indonésien. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lak Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Change de retard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson d'une des divas indonésiennes, Reza Artamevia. Chers auditeurs, avant de devenir chanteuse professionnelle, la carrière de Reza a commencé comme choriste pour le groupe Dewa 19. La voix distinctive de Reza a incité Ahmad Dhani, le leader de Dewa 19, pour la publier. Enfin, Reza entre en studio d'enregistrement sous la direction d'Ahmad Dhani en tant que producteur. En 1997, Reza a sorti son premier album intitulé Kajaiban. La chanson pertama est l'une des succès de cet album. La chanson pertama s'est placée en première position des hit parades indonésiens et a connu un succès phénoménal de sa première apparition. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée Pertama, chantée par Reza Artamevia. Bonne écoute.
Bonjour Jetard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. www.rvvs.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.